Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 2 de la saison 1 du balado Service Action. Donc, pour ceux qui ont été traumatisés lors du premier épisode par ce contenu très technique, ici aujourd'hui on va avoir une revue d'actualité, donc beaucoup plus abordable et qui va intéresser sans doute beaucoup plus de monde. Donc cet épisode va être sans doute beaucoup plus court aussi et va se découper en deux parties. Une première partie où je vais présenter quelques articles récents et une deuxième partie où je vais vous présenter quelques outils, alors qu'ils ne sont pas forcément récents mais que moi j'ai découvert récemment. Alors, pour commencer avec les articles, on va avoir un premier article. Donc je vous traduis le titre. Donc c'est du blog Security is Broken, Don't Believe Your Eyes, a WhatsApp Clickjacking Vulnerability. Donc en français, vous n'en croirez pas vos yeux, une vulnérabilité de détournement de clic sur WhatsApp. Donc dans cet article, on a l'auteur qui s'appelle Zuki qui a trouvé une vulnérabilité de détournement de clic dans WhatsApp qui permet de faire des attaques de hameçonnage. Ok. Un cybercriminel donc peut envoyer à n'importe qui un message élaboré avec un lien qui semble mener à un site légitime, mais qui en fait mène sur un site arbitraire contrôlé par l'attaquant. Bon. Donc ça c'est le truc de base. Donc comment l'auteur il a trouvé cette vulnérabilité-là? Donc Zuki il voulait chercher dans la fonctionnalité de prévisualisation des liens, donc celle qui affiche un aperçu du site web, quoi. Et donc la prévisualisation, bon, elle n'est pas générée par la victime, hein, sur le téléphone de la victime, mais en fait elle est générée par l'attaquant quand il envoie un message. Et donc, il est possible là de générer une prévisualisation du coup qui ne correspond pas au lien qu'on a mis. Donc, comment il a commencé pour chercher cette vulnérabilité-là? Bah, en fait, comme le trafic il est chiffré, Zuki a dû utiliser du coup le débogueur JavaScript pour injecter un point d'interruption juste avant le chiffrement et du coup pouvoir jouer avec les requêtes HTTP, le web service et tout ça. Et donc, dans la requête d'envoi de message, du coup, il y a trois propriétés qui étaient intéressantes. Une qui s'appelle texte, donc c'est le texte du message, le corps du message. Canonical URL, donc le domaine qui apparaît au bas de l'aperçu. Donc on a une petite vignette avec une image et puis l'URL écrite sur l'image, et après on a le un champ matched text qui semble d'après lui être comparé à canonical URL, donc le domaine qui est affiché sur l'aperçu et qui a l'air aussi d'être de tester que en fait, la valeur de canonical URL, elle apparaît bien dans le champ texte, et donc qu'on ait le même champ dans l'URL qui est affichée dans l'aperçu et qu'elle est bien comprise dans le texte du message, dans le corps du message. Et donc, bah, Zuki l'a découvert tout simplement qu'en supprimant le champ matched texte, et bah finalement bah il n'y avait plus vraiment ce contrôle-là et que du coup on pouvait avoir deux URL qui correspondaient pas. Donc en gros bah, là il donnait un exemple où en fait dans le texte, dans le corps du message, il met une URL genre vers Google et puis dans la prévisualisation il met une URL vers Facebook et puis du coup on a l'image du site de Facebook. Etc. Sauf que bon, c'est un petit peu gros, un petit peu visible, que du coup les deux correspondent pas. Donc pour aller plus loin, l'auteur, lui, il souhaitait que du coup bah le lien malveillant il soit pas visible, qu'il ait l'air visuellement de correspondre au lien qui est dans l'aperçu. Donc, ce qu'il a fait, donc je vous passe les détails de comment il a trouvé ça, mais il a injecté un caractère Unicode, donc 202E, son code point, qui est le Write to Left Override, donc plus connu sous l'abréviation RTLO ou RLO, pour modifier l'affichage de droite à gauche pour un certain nombre de langages. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réservé le nom de domaine, par exemple mock.margatsny.nl. .nl, ça doit être le domaine des Pays-Bas, qu'en fait, une fois qu'on renverse ce domaine-là à l'envers, ça fait ln.instagram.com. Et donc, comme le caractère RLO, il permet d'afficher à l'envers, du coup, c'est un petit peu l'idée. Et donc il va avoir une URL du style https://mock.margatsny.nl/.est.ph. Donc https à l'envers, comme si c'était dans le chemin, pour qu'une fois renversé, en fait ça marche. Et donc qui apparaîtra du coup comme https://ln.instagram.com /.est.ph. Et donc bon, WhatsApp, comme toutes les applications, un petit peu grosses applications modernes, etc., bah, il prend en charge le Unicode et puis en particulier du coup l'affichage des caractères BIDI RTL, vu que c'est une application internationale. Et du coup, bah, le lien malveillant, lui, pointe vers le site. Le lien malveillant, du coup, il pointe vers le site que l'attaquant il a choisi et qui ressemble visuellement à celui d'Instagram. Grâce parce qu'en fait c'est une URL totalement différente mais affichée à l'envers. Et puis la prévisualisation bah, c'est celle du vrai site Instagram. Et donc les deux ont l'air de correspondre en plus et donc c'est parfait pour piéger la victime. Donc Meta ils ont dit que bah ils pouvaient pas trop corriger ça. Donc après on ne sait pas exactement ce que Zuki l'a rapporté, donc peut-être qu'il n'a pas rapporté les bons éléments. Mais en gros, effectivement, si en gros, Meta, ils ont répondu que bah, ils pouvaient pas filtrer les caractères BIDI parce que du coup, ça allait empêcher l'affichage correct dans certaines langues, par exemple comme en hébreu ou en arabe. Effectivement, c'est pas la bonne méthode de filtrer les caractères Unicode qui font juste ce qu'ils doivent faire normalement. Après, enfin, là, du coup, on se dit, bah oui, bah pourquoi l'URL de prévisualisation, du coup, c'est pas directement ce qui est dans le texte et c'est fourni par l'attaquant, enfin, la personne qui envoie le message, parce qu'en fait, si l'URL, enfin, si la prévisualisation, on la générait depuis le client, depuis le téléphone de la victime, bah en fait c'est pas vraiment possible pour des questions évidentes de vie privée, parce que sinon ça veut dire qu'il y aurait une requête qui part de votre téléphone. Après, depuis les serveurs WhatsApp, c'est pas possible pour deux raisons. Parce que un, en théorie, même si c'est un peu un mensonge, la conversation de WhatsApp elle est censée être chiffrée de bout en bout, entre guillemets. Et la raison numéro 2, c'est que bah même si c'est faux ou que la conversation elle n'était pas chiffrée, bah le cas échéant en fait du coup ça veut dire qu'on pourrait faire une SSRF avec les serveurs de WhatsApp. Donc c'est pour ça que en fait c'est celui qui envoie le message qui va en fait générer la prévisualisation et l'envoyer à celui qui doit la recevoir. Et après, la sécurité de WhatsApp, du coup, c'est de vérifier que bah, le lien qui est dans le texte et celui qui est dans la prévisualisation correspondent. Et du coup, là, qui n'était pas le cas, une fois qu'on enlevait un champ de la requête, en fait. Et du coup, la vulnérabilité, c'est bien la non-correspondance entre l'URL du texte et celle de la prévisualisation. Et du coup, bah, la meilleure solution que moi j'envisage, en tout cas, mais qui serait quand même imparfaite, ça serait du coup de vérifier que l'URL de prévisualisation, elle est contenue dans le texte du message. Et que si c'est pas le cas, bah du coup on dit bah hop, on n'affiche pas le message. Alors que là actuellement, bah, WhatsApp il affiche, enfin on affiche le message, mais on n'affiche pas la prévisualisation. Et là actuellement, WhatsApp lui il affiche quand même la prévisualisation. Bon, je rajoute une petite note. En fait, l'auteur, après, il a fait une mise à jour de son article et dans lequel il explique qu'il l'a trouvé, mais en fait, il pense avoir trouvé, parce qu'en fait, il a rien trouvé du tout. Une vulnérabilité similaire sur Facebook, Android Message, Google Keep, Google Photos, etc. Mais en fait, pas du tout. Parce qu'en fait, dans toutes ces autres applications-là, en fait, il montre juste que son URL avec le caractère BD Unicode, bah, s'affiche à l'envers et que du coup, c'est un peu piégeux, machin, etc. Mais il n'y a pas du tout d'histoire de visualisation, de prévisualisation, d'aperçu, etc. Alors qu'en fait, là, la vulnérabilité dans WhatsApp, elle était bien due au fait que, en fait, on pouvait envoyer un aperçu qui ne correspond pas du tout à l'URL qui a été envoyée. Et alors que là, dans les autres messageries, en fait, c'est juste l'URL toute seule, enfin, qui est affichée à l'envers grâce au caractère RTLO. Mais c'est tout, il n'y a pas d'aperçu. Donc en fait, il n'y a pas de vulnérabilité. Et en fait, c'est juste le fonctionnement normal d'Unicode, en fait. Et a priori, l'auteur, il n'a pas l'air d'avoir compris ça, donc lui, il pense qu'il a trouvé une vulnérabilité dans tous les trucs. Alors qu'en fait, dès qu'il y a un système qui supporte Unicode et qui fonctionne normalement, bah du coup, ça a ce comportement-là. Donc lui, il croit qu'il a trouvé des vulnérabilités de fou partout, alors que c'est pas une vulnérabilité du tout. Ce qui est un peu dommage et ce qu'enlève un peu du crédit à ce qui a été trouvé auparavant. Mais passons, on n'est pas là pour jeter l'opprobre sur les chercheurs. Donc on a un deuxième article du blog Solid Snail qui s'intitule en anglais NPM Search RCE Escape Sequence Injection. Donc en français, exécution de commande à distance dans NPM Search, dans la commande NPM Search, en fait via de l'injection de séquences d'échappement. Donc dans les terminaux virtuels. Donc bon, là je vais pas passer de tout le détail de l'article, je vais faire beaucoup plus court. En fait, là l'article qui parle, enfin c'est une histoire de, en fait, de vulnérabilité qui a été remontée, qui a été corrigée, mais en fait la correction elle est contournable, donc c'est pas vraiment corrigé, donc on peut toujours l'exploiter. Donc c'est dans la commande npm search, mais aussi dans Radar 2 et dans GitHub CLI, donc dans l'interface en ligne de commande de GitHub. Donc là, bah, par exemple, en fait, dans l'interface en ligne de commande de NPM, en fait, c'était une expression régulière, qui vérifiait la taille, que ci, que ça, qui était pas bien faite, qui normalement servait pas à ça. Et bref, en gros, c'était une expression régulière qui était contournable. Il explique à chaque fois, en fait, le contournement pour les trois outils, pour Radar 2, pour GitHub et pour NPM, des patchs, et qu'en gros, les trois patchs dans les trois outils, bah, ils étaient pas bons, quoi. Et puis du coup à la fin il dit bah voilà la vraie solution en fait c'est pas de faire des trucs compliqués, alambiqués, qu'on se demande pourquoi ils ont fait ça, etc. En fait la solution elle est toute simple, c'est de filtrer certains caractères, certaines séquences d'échappement et c'est tout. Donc après on a un troisième article sur le blog de Vin01 en anglais SSH Proxy Command Unexpected Code Execution CVE 2023, blablabla, je vous lis pas le numéro en anglais. Donc en français, donc là dans l'option proxy command de SSH, on a une exécution de code inattendu, donc du nom de CVE 2023 51385. Donc j'en profite avant de commencer sur cet article que peu importe sur la plateforme de balado que vous écoutez ce balado, qu'en fait il y a une description et où dedans il y aura un lien vers un article. Normalement, quand je vais publier un billet sur LinkedIn ou sur Twitter, je mettrai aussi le lien de cet article-là. Et où du coup il y a toutes les notes associées, donc où vous pourrez retrouver les liens vers les articles complets et toutes les notes que j'ai prises. Donc voilà, petit rappel de milieu de session. Et donc dans cet article sur l'exécution de commandes dans SSH, en fait dans l'option proxy commande, qui est une option dans la configuration, donc on peut faire exécuter enfin une commande à la connexion, je crois, quelque chose comme ça. En fait, on va par exemple spécifier une commande qui va être exécutée lors de la connexion. Et en fait, comme dans beaucoup de trucs sur Linux, on peut mettre des marqueurs pour cent H ou pour cent P, pour cent H pour le nom d'hôte, pour cent P pour le nom de l'utilisateur, me semble, ou ça devait être pour cent U, enfin je sais plus trop. J'ai dû peut-être me tromper. En tout cas, voilà, donc du coup, on peut injecter un nom de domaine malveillant, donc avec des guillemets simples inversés, là, backtick. Avec, enfin voilà, et du coup, exécuter une commande. Donc, dans la preuve de concept que l'auteur y fournit, en fait, il donne un exemple de fichier avec un sous-module git. Où l'URL du sous-module git, bah, c'est une URL SSH. Et dans l'URL SSH, en fait, bah, c'est SSH de point slash slash, le domaine, le truc, le machin. Et en fait, le domaine, au lieu d'être un vrai domaine, et bah, c'est guillemets inversé, la commande, guillemets inversé, quoi. Et donc, du coup, bah, quand il va faire le git clone moins moins, je sais pas quoi, submodule là. Pour cloner en installant les sous-modules, bah du coup ça va déclencher le téléchargement du sous-module qui est une URL SSH et du coup le client SSH lui bah il va envoyer vers l'URL en question mais comme domaine on lui a mis une commande et donc du coup en fait bah le pourcent H bah il va être remplacé par la commande et hop il y aura exécution de commande. Donc bon, après, c'est pas un vecteur non plus ultra critique. On va passer à un quatrième article de Project Discovery, ceux qui font l'outil Nuclei, peut-être qu'on doit prononcer. Donc en anglais, le titre de leur article, c'est A Guide to DNS Takeovers, The Misunderstood Cousins of Subdomain Takeovers. Donc en français, en gros, c'est un guide sur les prises de contrôle de DNS, le cousin incompris des prises de contrôle de sous-domaine. Donc bon, en fait, il commence par rappeler c'est quoi un contrôle de sous-domaine. Donc en fait, c'est par exemple, on va voir créer un sous-domaine, je sais pas, s3.exemple.com, où ça va être l'URL de notre bucket S3 Amazon, par exemple. Et puis en fait, à un moment, on va décommissionner le service, etc. Le bucket va plus exister, mais en fait, le sous-domaine, il existe toujours. Et il pointe vers une ressource qui n'existe pas. Sauf que là, en l'occurrence, les buckets S3, en fait, bah, les noms, il n'y a pas d'espace de nommage réservé ou de truc comme ça. N'importe qui peut réserver un nom qui est disponible. Donc, si vous l'avez supprimé, bah, du coup, quelqu'un d'autre peut l'enregistrer. Et du coup, bah, votre domaine. S3.exemple.com, bah, du coup, il va pointer vers un bucket S3 malveillant qui est contrôlé par un attaquant, etc. Donc, en gros, c'est profiter des services dont les sous-domaines existent toujours, mais que le service, on peut l'enregistrer, alors que lui, il est plus, il n'existe plus. Donc, ça, c'est la prise de contrôle de sous-domaines classique. Donc il existe tout un tas d'hébergeurs, voilà. Et donc la prise de contrôle DNS, en gros, en théorie, c'est quand on a la compromission d'un serveur DNS dans la chaîne de résolution. Donc soit le serveur qui fait autorité juste au-dessus, soit un autre dans la chaîne jusqu'au serveur racine. La différence du coup entre le contrôle de la prise de contrôle d'un sous-domaine ou d'un DNS, d'un serveur DNS, c'est que bah pour le sous-domaine en fait il faut compromettre du coup l'applicatif qui est derrière ce qui est pointé vers le sous-domaine. Et donc on est très contraint, donc en fait il y a des services où il y a des espaces de nommage réservés, donc même si le truc il a été supprimé, bah nous on peut pas l'enregistrer, et puis on est contraint, donc par exemple là dans le cas du bucket S3, bah, on a un bucket S3, donc ça veut dire que on va pas pouvoir récupérer par exemple l'historique de qui tape sur le bucket ou des choses comme ça. Enfin on va être vraiment contraint par la fonctionnalité nominale du service, quoi. Alors que, bah, effectivement, là, si on a compromis un serveur DNS, en gros, bah, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Donc, on peut faire pointer vers ce qu'on veut et derrière, on met le service qu'on a envie. Donc, c'est beaucoup plus puissant. Par contre, effectivement, dans la pratique, c'est absolument improbable qu'on ait réussi à compromettre un serveur DNS. Donc, comment ça marche, en fait, la prise de contrôle DNS dans la pratique? Parce que... Eh ben, en fait, il y a beaucoup de fournisseurs infonuagiques qui proposent du coup de gérer des zones des DNS, faire de la délégation, etc. Donc, on peut désigner du coup un fournisseur DNS infonuagique comme serveur de nom faisant autorité pour notre zone DNS. Donc, le scénario, il est suivant. Bon, même si en vrai, je le trouve un peu improbable. Quand même, c'est quand même beaucoup plus probable que de compromettre un serveur DNS. Donc, par exemple, on a la victime qui va acheter un nom de domaine. Donc, elle va le configurer et tout ça. Elle va établir une zone DNS chez son fournisseur qu'elle a envie. Elle va définir la zone comme serveur de nom qui fait autorité pour son nouveau domaine, etc. À un moment donné, bah, en fait, la victime elle décide, oh bah tiens, j'ai plus envie d'utiliser ce truc-là. Elle a plus envie de rien héberger dessus, donc en fait, elle va supprimer la zone DNS du fournisseur, etc. Mais en fait, elle va pas modifier les serveurs de nom faisant autorité qui sont assignés à ce domaine-là. Donc ça veut dire qu'en gros, le domaine, lui, il existe toujours. Il est toujours valide, il n'a pas expiré. Il y a toujours des serveurs de nom qui font autorité, qui sont désignés, mais en fait, il a juste supprimé la zone DNS ou... Enfin, voilà, il a supprimé la zone DNS. Et du coup, ça a créé une situation où, en fait, les enregistrements DNS, du coup, en fait, bah, ils sont contrôlés par des serveurs DNS d'un fournisseur infonuagique, mais qu'en fait tout le monde peut utiliser. Et du coup, comme la zone, elle est plus réclamée, elle appartient plus à quelqu'un, enfin en fait, que personne ne revendique le domaine, et ben en fait, un attaquant, lui, il peut du coup, en fait, demander à ces serveurs qui ont autorité sur la zone de créer une zone et de créer des enregistrements DNS, etc., pour ce domaine-là. Et donc, en fait, après, il y a une petite contrainte quand même, en plus de ça, c'est que la plupart des fournisseurs, de DNS, là, ils ne permettent pas de choisir le serveur, de nom en particulier qui va être attribué à la zone qu'on crée. Donc nous, une fois qu'on a créé notre zone malveillante, en fait, on a un serveur de nom qui est attribué aléatoirement. Donc en fait, bon, ça, on peut y remédier en créant en fait une zone. On regarde c'est quoi le serveur qui est attribué. Si c'est pas le bon, et ben, on supprime la zone, on en recrée une, et ainsi de suite. Donc on peut scripter ça pour que ça soit automatique. Après, bah, du coup, ils fournissent, du coup, dans mes notes, il y aura le lien vers un GitHub Canaille Tech Over DNS où ils référencient tous les fournisseurs, les hébergeurs infonuagiques qui gèrent des zones DNS qui sont vulnérables. Pour ceux qui sont intéressés pour détecter ce genre de faille, en fait, bah, quand vous faites une résolution sur un nom, bah, faut regarder en fait si vos renvois serve fail comme message ou parfois juste refused. Mais bon après c'est pas parce qu'il affiche ça que en fait il est vulnérable. Donc après comme c'est un peu fastidieux à chaque fois d'essayer de faire tout le processus, bah, il suffit du coup juste de une fois que vous avez une de ces deux réponses-là, de vérifier dans la liste qu'ils ont donnée des serveurs vulnérables si le service il est vulnérable ou pas. Et petit point bonus, bah, du coup quand même c'est un article de Project Discovery, donc en fait il existe un modèle du coup pour trouver ça automatiquement dans NICLUI. Donc le modèle il s'appelle serfail-refuse-host. Et donc il fait la détection de ça automatiquement. L'avant-dernier article, du coup, qui est un article de Checkpoint. En anglais, le titre c'est The Obvious, The Normal and the Advanced, A Comprehensive Analysis of Outlook Attack Vectors. Donc, en français, l'évident, le normal et l'avancé, une analyse complète des vecteurs d'attaque d'Outlook. Donc, en gros, c'est pour, par exemple, les gens qui font du red team et qui veulent faire des attaques des campagnes d'hameçonnage. Et en fait, il donne tous les cas de figure possibles de vecteurs d'attaque un peu dans Outlook quand on envoie un courriel malveillant. Donc, il y a trois grandes catégories. Donc, l'évident, c'est avec les vecteurs d'attaque par hyperlien. Donc, voilà, des URL en gros. Le deuxième, c'est le normal. Donc, c'est les vecteurs d'attaque par pièce jointe. Et le troisième, c'est l'avancé, le vecteur d'attaque par lecture des courriels ou des objets spéciaux. Et après, à chaque fois, il y a chaque sous-catégorie et sous-sous-catégorie. Donc pour la première catégorie évidente, du coup avec les hyperliens, il détaille qu'est-ce qui se passe dans le cas où on a un simple clic sur un lien, que du coup par exemple ça s'ouvre automatiquement, ça ouvre automatiquement le lien dans un navigateur qui est par défaut et qu'il n'y a pas de fenêtre de confirmation, etc. Après il y a les liens autres que web, donc qui utilisent d'autres protocoles, donc ils disent que c'est hors sujet dans leur article, mais du coup ils donnent un lien vers un autre papier de recherche qui traite ce sujet en profondeur là. Après, on a le deuxième vecteur d'attaque avec les pièces jointes, donc là pareil, ils énumèrent en détail tous les cas possibles. Donc par exemple, quand on double-clique sur la pièce jointe, donc là il y a trois cas. Donc le premier cas c'est en fait il y a le cas où il n'y a aucun clic parce que en fait supplémentaire après pour déclencher la ma charge malveillante parce qu'en fait l'extension elle est marquée comme type de fichier non sûr donc c'est impossible de l'ouvrir. Après il y a le cas où ça nécessite un double clic plus un simple clic. Parce que en fait l'extension de la pièce jointe elle n'est pas marquée comme non sûre mais elle n'est pas marquée comme sûre non plus. Du coup on a plusieurs cas dans ce scénario-là en fait il y a une boîte de dialogue qui s'affiche à l'utilisateur pour lui demander de confirmer l'ouverture du fichier, est-ce qu'il veut vraiment l'ouvrir, etc. Est-ce qu'il fait confiance? Et à chaque fois il détaille en fait tout ce qui se passe dans le détail, tous les cas de figure, il donne des exemples d'attaques et de CVE et tout ça, pour chaque cas. Et après, il donne par exemple des recommandations. Là, par exemple, pour les développeurs d'applications Windows, par exemple, ils disent faut honorer le Mark of the Web, le MOTW. Donc, après, on a le cas aussi où il y a le double-clic quand l'extension de la pièce jointe est marquée comme un type de fichier sûr, etc. etc. Donc là, c'était tous les trucs qui coûtaient deux clics en gros pour arriver jusqu'à l'exécution. Après, il y a tous les vecteurs qui on demande qu'un seul clic. Donc en fait, quand on clique une seule fois sur la pièce jointe, et en fait, ça va au lieu d'ouvrir la pièce jointe, ça va demander s'il y a un outil de prévisualisation de la pièce jointe. Et donc là, pareil, il y a tous les cas. Quand il n'y a pas de prévisualisation parce que l'extension elle est marquée comme pas sûre, quand il n'y a pas de prévisualisation parce que en fait il n'y a pas de logiciel de prévisualisation pour ce type d'extension, quand il faut faire deux clics parce que comme tout à l'heure parce qu'il y a un bandeau de confirmation, quand il n'y a besoin de qu'un seul clic parce que en fait l'application elle est enregistrée, elle est marquée comme sûre, patati patata. Et après, du coup, là où c'est le plus intéressant, c'est pour le cas du vecteur avancé, donc soit par la lecture des courriels, soit par la lecture des objets spéciaux. Donc là, on a deux grandes sous-familles. La lecture des courriels directement. Donc là, en gros, c'est le simple fait de... On clique plus sur un lien, on clique pas sur une pièce jointe, mais là en fait le simple fait de lire le courriel, bim, on exécute la charge malveillante. Et donc, par exemple, bah, ça peut être le panneau de lecture ou le panneau de prévisualisation. Donc, en fait, vous cliquez juste, par exemple, sur le courriel et hop, c'est fini, quoi. La charge malveillante, la charge utile est exécutée. Donc, par exemple, s'il y avait une vulne dans le panneau de prévisualisation ou dans l'afficheur, en fait. En gardant en tête qu'il y a quand même trois formats de courriel possibles dans Outlook, soit le format texte, soit le format HTML, ou soit le format TNEF, qui est un format spécifique Outlook. Donc là, je crois que dans l'article aussi, il donnait un cas d'une vulnérabilité où il y avait une vulne dans le panneau de prévisualisation, etc. Donc ça, c'est déjà très puissant, et après il y a encore plus puissant de l'or en barre, hein, clairement, le vecteur d'attaque par les objets spéciaux Outlook. Donc là, en fait, juste le fait de recevoir le courriel dans le client Outlook, c'est suffisant pour déclencher l'exécution de la charge malveillante. Il n'y a même pas besoin de le lire, donc il n'y a même pas besoin de cliquer sur le courriel. Enfin, à partir du moment où le client Outlook il l'a récupéré, bim, la commande elle est exécutée. Donc là, il donne l'exemple d'une vulnérabilité de jour 0, CVE 2023, 23397, qui a été utilisée, je crois, pendant la guerre en Ukraine, un truc comme ça, permettant un Windows local de divulguer des informations d'identification NetNTLM au serveur contrôlé par l'attaquant. Donc en fait, t'envoies le HNTLM à la machine de l'attaquant direct, et lui il a rien besoin de faire, il t'envoie juste un courrier, toi tu l'as reçu, et à partir du moment où ton client Outlook il l'a reçu, bim, trop tard, t'as envoyé ton H machin, c'est fini. Et donc il y a j'ai mis ici dans les notes un lien sur une démo qui a été faite par MDSEC de cette attaque et de comment elle marche avec plein de détails techniques et tout. Et enfin, un dernier article de Ambionics. Introducing WrapWrap using PHP filter to wrap a file with a prefix and a suffix. Donc en français, présentation de WrapWrap, utilisation de filtre PHP pour encapsuler un fichier avec un préfixe et un suffixe. Donc en gros, de base, ils sont dans un cas de figure où ils ont une SSRF en aveugle avec une appli PHP et un analyseur syntaxique XML derrière. Donc, ils essayent d'exfiltrer, en gros, de lire des fichiers arbitrairement et de les exfiltrer avec leur SSRF. Ils sont dans un cas de figure où ils montent le code source, je ne sais plus pour quelle raison X ou Y. En fait, le parseur, l'analyseur syntaxique XML, il est un peu laxiste. Ou alors, c'est une spécificité du code, je sais plus trop. Mais en tout cas, les messages XML, ils sont acceptés quand même, même s'il n'y a pas les balises fermantes. Donc, un peu comme dans les parseurs HTML qui sont très 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 laxistes. Et où vous pouvez mettre juste les balises ouvrantes et votre contenu, et puis il va les fermer automatiquement et accepter. Donc là, on est dans ces cas de figure-là. Et donc en fait il est possible de récupérer le contenu d'un fichier arbitraire qu'ils ont envie, par exemple etc/pwd, avec la technique qui a été publiée par Synactive de chaîne de filtre PHP. Donc c'était une technique assez avancée où ils montraient comment en enchaînant des filtres PHP on pouvait ajouter des caractères BAS64 à un contenu préexistant en jouant sur des conversions de jeux de caractères d'encodage, etc. Donc là, en fait, la problématique, c'est que si on faisait un filtre PHP classique, par exemple encode en BAS64, en fait, de tel fichier, il va prendre tel fichier, il va l'encoder en BAS64. Et en fait, après cette réponse-là, ça va être ça que le parseur XML il reçoit, et ça va pas être une réponse XML valide. Donc en fait, il va y avoir une erreur, il va cracher. Donc là, en fait, on rajoute toute une chaîne de filtres qui va nous permettre en fait d'ajouter un préfixe Et ce préfixe, on va s'en servir en fait pour créer des balises ouvrantes XML, là en l'occurrence, de manière à ce qu'en fait à former un format de message qui soit valide. Et donc on va avoir nos balises ouvrantes XML, et après en fait le contenu par exemple encodé en base 64 du fichier qu'on a récupéré après, et du coup qui va être parsé normalement par le parseur XML. Donc en général, ce type d'attaque, c'est utilisé pour générer par exemple des web shells, des interpréteurs de commandes web, là. Il est possible du coup de détourner en fait cette technique pour ajouter, comme je viens de vous le dire juste avant, en fait, des balises XML ouvrantes devant la source. Donc là, en l'occurrence, en fait, il n'y a rien de nouveau jusqu'ici, parce que là, en fait, comme le parseur il est laxiste, où il n'y a pas besoin de balises fermantes, on avait juste besoin finalement d'ajouter un préfixe à notre chaîne de filtre PHP, et c'est tout. Et donc du coup c'était la commande, enfin la technique publiée par Synactive il y a quelques temps, donc voilà, rien de nouveau. Mais du coup les chercheurs de Ambionics se sont posé la question, mais en fait par exemple comment on aurait fait s'il avait fallu avoir une syntaxe XML valide, donc avec les balises fermantes? Ou si par exemple la SSRF, au lieu que ça soit un parseur XML, c'était un truc qui prenait du JSON. Ou là, il n'y a pas de truc laxiste. Si là, le parseur il est très strict, quoi. Donc si c'est pas fermé, ça marche pas. Donc ça veut dire que dans ces deux cas-là, en fait, on a besoin d'un préfixe, d'un suffixe, pardon. Donc quelque chose qui est après le contenu qu'on dump, qu'on récupère. Et donc, là, après, je vais pas vous expliquer à l'oral parce qu'en fait, c'est très compliqué. Mais vous pourrez retrouver le lien de l'article et aller le lire. Et donc, ils expliquent comment, toujours en jouant sur des sur de l'encodage, en fait, d'un encodage à l'autre, ils arrivent à générer des caractères supplémentaires, ça fait des nouvelles lettres, et puis à faire tout un méli-mélo pour que ça soit ajouté à la fin, etc., etc. Et puis tout un tas de techniques d'optimisation pour pas avoir une charge utile qui fait 1 milliard de kilomètres de long, etc., etc. Et qui prennent pas non plus, parce que ils avaient fait une première méthode, mais où ça se fait des charges utiles qui font 1 kilomètre de long, et puis qui du coup mettent plusieurs secondes à être exécutées par le serveur PHP, enfin un enfer. Et donc après ils ont optimisé leur technique, etc., et trouvé des trucs assez intelligents pour pouvoir avoir une taille raisonnable et un truc qui s'exécute instantanément. Donc là, je vous invite à aller lire la suite, qui est assez complexe pour ceux qui ont envie de creuser techniquement et qui avaient bien aimé la première publication de Synactive. Donc voilà. Là, on en a fini avec les articles, et maintenant, ça va être beaucoup plus rapide. Je vais vous parler de quelques outils que j'ai découverts récemment et que j'ai ajoutés par ailleurs à l'inventaire de cybersécurité d'EuroSec, donc le EuroSec Cybersecurity Inventory, que je maintiens, qui au passage, hein, je rappelle, pour ceux qui découvriraient, du coup, qui est un site web, un inventaire avec un moteur de recherche et plein de, en fait, plein d'outils et de ressources liées à la cybersécurité qui sont indexés, donc avec les liens vers les GitHub, la description, dans quel langage c'est fait, quel est le package Black Arch pour installer le package, etc., etc. Et un petit moteur de recherche pour trouver tout ça facilement. Donc là récemment, j'ai ajouté quelques outils. Un outil qui s'appelle Geolocation Estimation, qui est en fait un outil de renseignement géographique, donc GeoInt, pour trouver l'emplacement d'une image automatiquement en utilisant de l'apprentissage approfondi, donc en anglais du deep learning. Et donc c'est assez bluffant en fait, là où normalement les techniques de renseignement géographique, normalement c'est des mecs qui passent des heures, des jours, voire des semaines à dire oui là en fonction de l'ombre, en fonction de tel truc qui est derrière, de la courbe des nuages ou je sais pas quoi, ils réussissent à retrouver où c'est en faisant de la dichotomie ou discriminer dans quel endroit du monde il y avait tel truc à telle heure, etc. Enfin, limite, les mecs, c'est des météorologues, quoi. Ou alors faut avoir une énorme culture générale pour reconnaître que tel type de panneau, tel type d'espacement entre les traits, ça existe que dans telle route de tel pays ou je sais pas quoi. Donc normalement c'est super galère et super fastidieux. Donc là en fait c'est bluffant, c'est automatique. Et je crois qu'il y avait notre ami Laluca qui avait testé ça sur un direct sur sa chaîne Twitch. Il avait pris une photo que lui il avait pris de son balcon, un truc comme ça, et du coup en fait ça avait trouvé enfin vraiment à genre 1 km près l'adresse où lui il avait pris le truc quoi. Donc voilà. Après on a un outil qui s'appelle Echidna. Qui est une plateforme collaborative de tests d'intrusion, donc plutôt technique, pas du tout pour la partie rapport, mais pour partager des terminaux entre plusieurs auditeurs, extraire des informations sur la cible, suggérer des commandes, donc ça vous fait un peu d'autocomplétion, machin, ou en fonction de ce qu'il a trouvé, il vous dit tiens, vous pourrez faire ça. Des recherches de code d'exploitation, donc il y a un espèce d'exploit DB intégré, des trucs comme ça. Il y a un chat pour l'aspect un peu collaboratif entre les gens. La visualisation de graphique, de je sais plus trop quoi. Enfin, bon voilà, à essayer, hein. J'ai pas essayé. Après, on a l'outil PyWSUS, donc qui est tout simplement une implémentation en Python d'un serveur WSUS qui est conçu en fait pour envoyer et servir du coup des réponses malveillantes à WSUS à des clients, donc pour distribuer du contenu malveillant via WSUS, par exemple dans le cadre d'un test d'intrusion d'infrastructure interne. Après, on a un service en ligne sous forme d'un site web qui s'appelle NTLM to Password, qui est tout simplement une table de consultation d'empreintes NTLM avec des milliards de mots de passe indexés. Donc là, pareil, vous êtes en test d'intrusion d'infrastructure interne, vous avez des hash, et ben vous n'utilisez pas ce service parce que vous n'allez pas faire fuiter les hash des mots de passe de vos clients à un service tiers auquel vous ne pouvez pas avoir confiance sur Internet. Mais par exemple, si vous faites un CTF ou que vous faites un lab ou je sais pas quoi, et qu'il n'y a pas vraiment de confidentialité dans les hash des mots de passe, bah là, plutôt que de passer des heures à essayer de casser ça, vous pouvez tenter votre chance sur ce service. Après, bon, c'est pas nouveau, hein, mais ça a quelques mois, mais du coup, je viens tout juste d'ajouter NetExec, du coup, sur l'inventaire. Donc, pour rappel, c'est un outil de test d'intrusion en environnement Windows Active Directory pour faire tout un tas d'attaques réseau, d'exécuter des trucs quand on a réussi à avoir un compte, soit en CMB, en LDAP, sur des serveurs MS SQL. Etc. etc. Donc en fait c'est une fourche de crap MacAuzec et donc qui est peut-être plus connue parce que qui existe depuis des années. Et donc pour ceux qui se posent la question, mais voilà, donc fourche hein, c'est fork en anglais hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Du coup quelle est la différence entre crap MacAuzec et NacAuzec? J'ai fait une vidéo, donc pas pareil, dont vous retrouverez le lien de la vidéo dans la note. Donc la vidéo est assez longue, hein, elle fait 40 minutes, pour expliquer tout le drama, le pourquoi du comment. Ensuite, on a un outil qui s'appelle Goofuzz pour Google Fuzzing. Donc c'est un outil de reconnaissance passive qui permet du coup d'énumérer des répertoires, des fichiers, des sous-domaines ou des paramètres. En fait un peu comme si on avait un FFUF, un FUF, sauf qu'au lieu de faire des requêtes activement sur le serveur, eh ben en fait on va faire des requêtes Google avec des dorks et on va essayer de. Mais on a une interface, un affichage qui est similaire, quoi. Voilà, donc ça peut être pas mal. Après, on a Whisker qui permet de prendre le contrôle de compte d'utilisateur et d'ordinateur dans le sein d'un Active Directory en manipulant leur attribut MSDS Credential Link, ce qui a pour effet du coup d'ajouter des informations d'identification fictive au compte. Donc après, déjà je m'en rappelle plus trop. En plus, c'est pas trop. Enfin, je me rappelle pas du tout comment ça marche. Et puis c'est pas trop ma tasse de thé. Donc, si vous voulez savoir comment ça marche, allez creuser par vous-même. Moi, je vous en dirai pas plus. Et pour finir, on a FTK Emerger, donc qui est un petit open source du coup, lui, qui est un outil propriétaire, mais qui est gratuit quand même, enfin gratuit entre guillemets, parce que effectivement, on peut le télécharger sur le site de l'éditeur, mais il faut remplir un formulaire où on donne des informations. Donc en gros, c'est gratuit, mais en fait, on paye en donnant des informations personnelles en gros. Mais bon, libre à vous de rentrer n'importe quoi et d'utiliser une adresse de courriel Yopmail. Donc du coup, c'est un outil d'investigation numérique qui permet du coup de faire des enquêtes numériques sur des appareils électroniques et puis qui va avoir tout un tas de fonctions donc d'imagerie de disques complets donc pour faire des images complètes, de prévisualisation et d'imagerie, enfin de prise d'image des disques dur sur des ordinateurs Windows et Linux, de faire des images de CD, de DVD, de clés USB, de tout un tas de périphériques, de permettre de monter des images judiciaires, donc avec toutes les contraintes légales, machin, etc. Donc par exemple monter une image pour une en lecture seule qui tire parti d'un qui permet du coup après de visualiser ce qui se passe sur l'explorateur de fichiers sans le modifier. De prévisualisation des données, de faire des captures de la RAM, patati patata. Enfin, voilà, un outil d'investigation numérique, quoi. Et c'en est fini pour ce petit épisode. Et je vous dis au prochain épisode.